En tout cas, eux, ils sont courageux. Ils sont venus en studio pour leur direct. C'est Faites valser vos idées qui sont prêts sur les starting blocks derrière leur micro. Je lance le générique et je vous laisse entre leurs bonnes mains.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute en direct de Faites valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence tout de suite avec Max.
Non.
Allez si. Bonjour escapadiens et tout autre. Aujourd'hui, on change de sujet. On revient faire un focus sur la troupe des nomades, qui existe toujours d'ailleurs, contre vents et marées, et qui réunit toujours une belle brochette d'acteurs venant de tous horizons. Bon, je vais pas vous refaire un topo, mais il fallait un minimum histoire de savoir de quoi on va parler, dans et autour des interviews d'aujourd'hui. Le sujet, c'est donc le théâtre. D'ailleurs, l'année prochaine, j'aimerais bien aller interviewer d'autres troupes, comme le théâtre Albaret, par exemple, peut-être. Bref, j'ai pas encore décidé. En attendant... Donc, interview making of de l'émission La Valse des Idées, dans laquelle on parle de la troupe des nomades et de théâtre.
Vous voulez bien? Je suis en train de faire un petit essai là, ça vous dérange pas les photos? On est à Radio Escapade! On est à Radio Escapade!
Oui! Vas-y,
allez, non, faites-moi des oui comme dans l'émission là, on est où là?
Ouais!
On sait jamais, moi je peux faire un montage. Et.
Pourquoi tu sais on le pas fait. Si t'es là lundi ou pas?
On le fait. Bah,
si, je suis là lundi.
Ok.
Mais lundi.
Pour enregistrer le 5.
5 mai.
Oui, mais c'est. Oui, oui, si, si, je sais là.
Bah, c'est bon.
Lundi 5, je suis là,
moi. Oui, on a pas besoin d'enregistrer, hein.
Si, si, je le fais, je ferai peut-être un montage avec. Parce qu'en plus, j'ai des trucs à vous annoncer et tout. Et du coup, vraiment, ça fait partie de mon délire. Ça fait pas. C'est le suivi, c'est mon suivi du truc, s'il vous plaît. Je vous demande de participer à mon interview radio.
Je vous demande de vous arrêter.
Mais de toute façon, si vous voulez pas, je le fais quand même.
Non,
non. Et je vais en prison. Et voilà.
Non, parce qu'on enregistre tous ensemble finalement.
Non, mais je vais téléphoner
à. Et oui, mais quand même, moi, ça fait. Je l'intègre à mon interview dans mon montage, tu vois.
En direct.
J'ai envie de faire un truc.
En direct bah, mais non, t'as dit qu'on faisait avant.
Direct. Ah non, toi, direct.
Tu
veux enregistrer et plus.
Ouais, mais avant.
Dans le direct.
Mais avant, je fais un montage.
Aussi, si tu veux, on peut le faire avant.
Non, non,
enfin, s'il y a besoin.
Il n'y a pas de souci.
Parce voilà. Que cette fois, on enregistre en direct.
Ok. Mais moi, c'est pas de problème, mais il faut que j'ai d'autres trucs. Là.
Cette fois, on enregistre en direct.
J'arrive.
Il faut le laisser en marche. Il fera peut-être préciser.
Et toi, je vérifie encore parce que j'ai tellement de merde. Voilà, c'est bon. Faut pas appuyer, quoi.
Bon.
J'essaie de me chercher un peu, je sais pas, un truc, un vase.
Oh, quelqu'un a ramené une bonne bouteille de bière.
C'est
moi. Oh, qu'elle est gentille.
T'as un verre? Un verre pour Jean-Pierre.
Oui,
pour
c'est magnifique. On parle bien, nous, à Radio Escapade.
Je croyais que c'était le verre.
Ouais, moi aussi, mais là, visiblement, c'est pas le verre. C'est pas le verre pour la bière, celui-là.
Il arrive, je l'ai nettoyé tout à l'heure.
Parce que sinon, je pense que là... là, c'est... Il faudra carrément changer tout l'appareil. Là, ce sera plus d'affaire de pile.
Ouais, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Non, elle est mauvaise. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouille, tu vois.
Apparemment, galère...
J'ai passé une semaine avec les nomades, donc c'est mon sujet, hein. Et c'était incroyable. Mais alors, j'en ai chié. Si vous saviez, c'est pas facile. Dans la vie, y'a rien de lisse. Hein. Et les groupes amateurs théâtre, ben c'est dur aussi des fois, quoi. Et là, il y avait du dur et du coup, il y avait des réactions humaines, il y avait de l'émotion et waouh, je suis crevé. J'ai envie de finir comme ça avec vous. Parce que, voilà. En gros, j'ai passé quand même deux nuits sur un carrelage, la nuit. Pour dormir à quelques heures, tu vois, parce que les ronflements, les problèmes de chambre, le fait que c'est compliqué pour que ce soit pas cher et tout ça, tu vois.
Résidence.
Voilà, voilà. Donc t'es crevé, tu vois, c'est compliqué de faire bien les choses. Le matos de musique, le froid, la pluie, enfin. Waouh. Tu vois. Et j'ai fini, là je résume, je vous raconterai d'autres parties pendant l'émission, enfin pendant l'interview, là je suppose, mais. J'ai fini en stop avec tout mon matériel au bord de la route ce matin. Tout seul. Hein.
Ah ouais.
Ah ouais, ouais.
Mais comment t'y allais
après une nuit d'essayer de revenir de Bessège, là, en voiture électrique qui n'avait plus de charge sous la pluie. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, ça se décharge très vite, du coup. Donc on était à 40 à l'heure toute la nuit, on est arrivé à Saint-Thibault. plus de charge, il a fallu qu'on trouve un endroit pour dormir quelques heures avant d'essayer de repartir le matin. Évidemment, quand on est revenu à la voiture, elle n'avait pas chargé. Voilà. De la folie, quoi. Un truc de dingue.
Mais comment tu y as mis à...
Mais la veille, on a fait notre spectacle de théâtre quand même, pratiquement sous la pluie, et on l'a fait.
À Bessèges, tu y es allé comment ?
À Bessèges, j'y suis allé avec la voiture de quelqu'un d'autre, avec Catherine. Je parle un peu comme ça à cause du micro. J'y suis allé avec Catherine, c'est une meuf de la troupe des Nomades, quoi. Elle m'a emmené en covoiture, tu vois, j'avais le matos dans sa voiture, tout ça, et du coup, fallait que je me débrouille avec les voitures des autres, tu vois, j'avais pas le choix, quoi. Voilà, hein. C'est vrai que j'aurais pris ma voiture, mais bon. J'ai une voiture qui chauffe.
Bon, mais du coup, t'as une mauvaise nouvelle, c'est que t'arrêtes la radio ?
Mais non, pourquoi j'arrêterais la radio ?
Bah, je sais pas, tu dis on a une mauvaise nouvelle, moi.
Ma mauvaise nouvelle, c'est ça, en soi. C'est...
Ah, je m'en fous.
Mais c'est cool, mais tant mieux. Tant mieux, enfin merci pour l'empathie, mais...
elle a pas d'empathie, de dire.
Je suis très mauvaise personne, moi je dis... Bon, bah, il va nous dire qu'il arrête la radio et tout. Il dit quelle mauvaise nouvelle, il me dit il est revenu en stop. Bon, bah c'est dur pour toi. Alors,
moi, je vous la fais peut-être pour servir pour mon talent, je sais jamais ce qui va se passer. Lydia, Jean-Pierre, Jean-Mi. J'arrête la radio.
Ouais. Oh, pardon. Oh, non.
Chloé, tu parles plus, t'as peur des micros.
Si, non, moi, j'étais revenu de... Je sais plus, c'était au-dessus d'Avignon, c'était Carpentras. Et je suis revenu de Carpentras en stop il y a quelques années. Je crois que ça m'avait pris près de 3 heures, je crois, pour revenir en stop. J'étais même pris par un mec, je me souviens un gars qui conduisait un camion là, de déchets ménagers, là, tu sais. Il roulait à fond la caisse, quoi.
Putain, ça devait sentir bon, là. Hein, sympa, là.
Non, c'était vide. Ah. Mais c'est clean à l'intérieur, c'était bien.
Ah ouais. Ouais, bah le stop. Moi, franchement, ce matin, c'est pas facile le stop non plus. Hein. Après tout ça, tu sais, le truc, c'était un peu sur les nerfs. J'ai eu mes petites secondes de... putain, j'ai du mal à aimer l'humanité, là. Elle commence un peu à me gonfler. Les gens, ils ont leurs problèmes, mais tu t'en rends plus compte, quoi.
Mais tu sais qu'il y a l'appli Pouce, maintenant, ici. Et c'est peut-être pour ça que les gens prennent plus des inconnus ou des trucs comme ça.
Le quoi, lui, là ?
Latifa et Didier, Myriam Eve et Youssouf, en voyage avec Bright et Vincent, Vanouka, Yat et Odile, en voyage avec Patricia et Djibril, Christine et les deux Catherine, en voyage avec... Couleurs, on voyage avec toi. Jaouid, son petit frère et ses copains, les enfants de demain, voyage avec toi. Ouh, 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 ouh. Toi, ouh, ouh. On est parti pour une pièce de théâtre et on n'a même pas peur d'en voir toutes les couleurs.
C'était Voyage d'OSF, OSF que tout le monde connaît, le plus grand groupe du monde et de l'univers connu.
On s'en fout.
International.
Ouais, ouais, ouais.
Ça veut dire Origine sans frontières.
International de, ouais. De la rock.
Enfin, je sais pas, des fois on change, des fois c'est Original Samurai Frankie ou on s'en fout, ou on s'en... Enfin, voilà.
Le sushi parfait.
Je m'insurge contre l'accusation de manque d'empathie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Non, mais je me suis rattrapé après quand même. Bon, c'est peut-être dans la deuxième partie.
Peut-être.
On verra. Bah là, ouais. Suspense.
Suspense.
Et ben, on va le savoir. On peut la lancer, hein, d'ailleurs, du coup.
Ouais.
Allez, ben, c'est parti. Deuxième partie.
Mais tu sais qu'il y a l'appli Pouce maintenant ici, et c'est peut-être pour ça que les gens prennent plus des inconnus ou des trucs comme ça.
Le quoi, l'appli?
L'appli Pouce. T'as une appli maintenant? Qui est dans l'Hérault et le Gard, je crois aussi. Il faudrait vérifier. En tout cas, dans l'Hérault, c'est sûr.
Et elle lève la main à ta place?
Non, non, c'est une appli où tu t'inscris, où tu dis tel jour, je vais faire du stop. Et il y a quelqu'un qui te dit, bah, moi, je passe par là, je peux te prendre, je peux t'emmener là. Ou
ah, on verra ça ensemble plus tard. Alors, ouais, moi, ça m'intéresse.
Et c'est une appli parce que justement, les gens font de moins en moins de stop. Ben ouais, mais t'avais pas qu'à faire du stop, tu vois. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de stop. Hein.
Ouais, en même temps, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ça dépend d'où tu te places, tu vois, si t'es le papa, tu vas pas faire du stop même. Hein.
Et par contre, comme on est dans des petits patelins ou des petites villes, enfin, tu sais, on est éloigné, on doit aller à Montpellier, à Béziers ou peu importe. Enfin, il y a. Eh ben, on a. Il y a une appli ici, dans la région, c'est l'appli Pouce. Je sens que c'est Pouce. Et là, tu t'inscris et tout. Et du coup, les gens, tu as des trucs où tu peux t'arrêter, te
okay,
mettre.
Ok, ouais, super. Et l'appli, l'appli doigt d'honneur, elle existe ou... Non, pardon.
Et du coup, les gens, ben, je trouve ça super, moi. Parce que tu vois, là, si je dois aller faire du stop, et ben, je vais aller direct là-dessus et tout. Et puis, parce que tu mets tes coordonnées aussi.
Enfin, c'est parfait pour l'interview en plus, hein. Mais dis pas le mot de la marque du truc, hein, s'il te plaît.
Bah, en fait, non, je crois que c'est un truc départemental ou régional, je sais pas. Enfin, c'est un truc d'État, quoi. C'est pas une appli.
Qu'on leur fasse pas de la pub.
Une asso, enfin, c'est pas un truc, une application, c'est pas Tinder, quoi.
Oula, ça pue des pieds ton appli Pouce, enfin, si je puis dire.
Enfin, bref, voilà. C'était pour te dire, si j'avais su que t'allais faire du stop, je t'aurais dit, écoute, regarde sur l'appli Pouce, peut-être que tu peux.
C'est pas un truc d'Elon Musk. Non, tout va bien.
Voilà. Bon. Ce que j'avais à dire sur... On a de la chance quand même dans la région.
Pauvre Elon. Je suis méchant avec Elon. Je m'en veux.
Bon, c'est terrible, je suis méchant avec Elon Musk.
Ne t'inquiète pas, je pense qu'il en a absolument rien à carrer.
Okay. Ah bon, mais tant mieux, parce que je voudrais pas le faire du mal. Je pense qu'il est pas bien.
Il va faire Elon Musk tout à l'heure dans mon papier.
Bah ouais, c'est pour ça que j'en fais un peu. T'as vu un peu, je suis un professionnel.
En tout cas, t'aurais été moins emmerdé si tu me l'avais dit avant. Je t'aurais dit, écoute, regarde l'appli Pouce, parce que ça se trouve, tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir t'emmener parce que...
Ouais, mais je prévois pas mes galères, oui, tu vois, comme, tu vois. Allez, je vais pas appeler maman, oui, Lydia à chaque fois.
Non, non, hein, non, mais t'aurais pu, par exemple, aller regarder sur Pouce et voir s'il n'y avait pas un mec qui passait dans le coin.
Ouais, ouais.
C'est ça le truc, mmh, tu
c'est
vois.
C'est d'avoir, oui, à l'avance, forcément.
Et donc, ça empêcherait les agressions, les...
Bah, on pense...
Dans ma chaîne, ça empêcherait...
Parce que je me suis dit, ouais, bah... Parce que moi, sur le coup, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, putain, super pour les prédateurs, tu vois. Mmh. Oh, tiens, il y a une fille qui va faire du stop à cet endroit-là.
J'en ai rien. Toi, ta position de prédateur, vois, du coup, c'est...
Dit, bah, j'y
oh,
vais,
du coup,
vois,
non, mais j'adhère. Moi, je suis en train de télécharger l'application.
C'est vrai qu'il fait son truc dans son coin. Bon, je reviens vers Lydia et Jean-Pierre, il part.
Tu vois ce que je veux dire?
Ça
s'appelle Réseau Pouce. Réseau Pouce, ça s'appelle. R-E-Z-O, Pouce.
Ils l'ont fait comme un pouce, quoi. Et tout.
Moi, super,
j'ai
merci.
J'ai beaucoup pris d'autostoppeuse, d'autostoppeur, hein, moi, dans ma vie.
Je vais dire merci Jean-Pierre, merci Jean-Mi.
Ici, hein, tu vois. Et, enfin, moi, je connais plein de gens qui prennent... Et donc, en fait, il y a plein de gens, bah, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, moi, quand j'étais jeune, je prenais souvent, je faisais souvent du stop, ouais, et tout. Et maintenant que j'ai une bagnole, bah, et ça me rassure parce que j'hésitais et tout, alors qu'avant, il y a quelques années.
C'est trop long, c'est trop long pour mon interview, Olivier.
Non, mais je réponds à Jean-Pierre, pas à toi. Et mais sur le coup, c'est vrai que je me suis dit, super pour les prédateurs, ils vont savoir où il y a toutes les filles qui sont en train de faire du show, tu vois. Mais en fait, non, parce qu'il faut vraiment que tu mettes ton nom, tout ça. Okay.
Ouais, moi aussi, quand je tendais le pouce, on faisait souvent des doigts d'honneur, quoi.
Il va falloir que je fasse un montage.
Non, mais c'est une bonne appli, je trouve. Et il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, mais je trouve ça cool.
Bah, pour mes nomades, d'ailleurs, je reviens sur les nomades de temps en temps, hein, parce que c'est aussi mon sujet quand même. La troupe des nomades, j'ai pas rappelé. C'est une troupe de théâtre du coin, quoi. Troupe amateur, on est des galériens. Enfin, on est des galériens. C'est pour résumer le truc, c'est pas facile. Il n'y a plus de subventions à l'heure actuelle, etc. Et voilà. Et donc, on est super fiers, de, ne serait-ce que de continuer déjà, de se retrouver ensemble et d'arriver à faire les choses. C'est humainement, c'est waouh.
Ouais.
Voilà. Donc, bravo aux nomades encore.
Ouais. Donc, voilà pour l'appli machin.
Je crois que l'appareil est éteint, Max.
Et non, c'est bon, merci.
Et je voulais savoir pourquoi tu nous enregistrais, en fait. C'est parce que t'as pas pu faire tes interviews.
Merci, Lydia, t'as deviné. Imagine, dans cette galère et tout, tu vois. Y a pas que moi qui galère.
Il avait pas de pile, et en fait, il a des piles. Hein.
En plus, ça, je m'en suis même pas rendu compte. Hein. J'ai tellement galéré que j'ai laissé tomber, quoi. J'ai dû laisser tomber plusieurs choses. Hein. J'ai emmené mon micro et tout, j'avais mon matos musique, on devait chanter avec Camara. Enfin, y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire.
Okay. Bah, de toute façon, après,
t'as cassé tes lunettes.
Et j'ai cassé mes lunettes.
Dans un sens, on s'en fout un peu vu que tu nous fais jouer un truc en début, que ça parle quand même de théâtre.
Voilà. Ton manque d'empathie par moment, ça rend service.
Je manque pas d'empathie, je suis pragmatique.
Non, je sais, franchement, pour ceux qui écoutent Lydia, elle manque pas d'empathie.
Oh, c'est gentil, oh mon dieu, je suis émue. Vous avez vu comme je suis émotionnelle comme fille.
Pour ce qui me concerne.
Voilà, c'est juste son opinion, hein.
Non, mais je pense que ça vous rassure d'avoir quelqu'un de pragmatique.
Bah ouais.
Bah ouais, il en faut une.
Bah, c'est des gens fiables, les gens pragmatiques après tout. Chiant, mais fiables.
Comment ça, chiant?
Bah, ils peuvent être chiants.
J'ai posé
tout
la bonne
être.
Question, tu peux expliquer bah, qu'en fait, t'as pas d'interview cette fois.
Et ouais.
Et du coup, qu'on se retrouve là, et tout ça pour que je me fasse traiter.
En plus. Ouais.
Donc c'est voilà, chaud. Donc du coup tu vas nous faire jouer parce que ça reste dans le théâtre. Tu nous expliques un peu quand même tes nomades et puis bah, tu nous montres ce que c'est un peu ton travail avec eux. Puis tu nous fais jouer, c'est super.
Bah voilà, c'est déjà hein, voilà. C'est des bouts de ficelle, c'est du bricolage. C'est comme fabriquer un morceau de musique, on va dire.
Voilà, et c'est comme la troupe des nomades, des bouts de ficelle.
C'est pareil, on est dans l'ambiance. En même temps, on dénote pas tous les quatre, hein, j'ai envie de dire.
Ouais.
On avait fait les salauds de pauvres dans le temps avec Lydia d'ailleurs. Enfin, pour, ceux,
ouais.
pour ceux qui écoutent et qui sont de salauds de pauvres, j'espère que ça serait bien, ça serait drôle.
Ouais.
Bisous.
Bisous. Bon, ça dépend qui.
Oh, non. Bah,
pour rester dans le manque d'empathie.
Eh oui, chante.
Non, non, j'embrasse tout le monde.
Bah oui. Et voilà, donc maintenant, bah, du coup, comme je l'ai annoncé pendant l'interview en direct, pas direct, enregistré, comment on appelle ça ? Enfin, l'espèce de fin, ce que j'ai trouvé
un
pour
beau bordel.
Bon, ouais. Bref, on va vous faire cette petite improvisation qu'on vous a promis. C'est parti ? On y est ?
Allez.
Allez. Allez.
Je fais le narrateur. Un aristocrate, tout ensanglanté, dort dans son lit luxueux. Il s'éveille et s'étire douloureusement. Ouvre grand les yeux, se sent perdu, appelle avec rage. Serviteur ! Serviteur ! Serviteur ! Vite ! Entre les serviteurs, leur livrée à la main.
À vos ordres, monsieur.
Mais pourquoi arrivez-vous si tard ? Pouilleux ! Crève la faim ! Misérable !
Merci,
monsieur. À vos ordres, monsieur.
Ah ! Enfilez vos livrées ! Limaces !
Les serviteurs enfilent leurs livrées, font une grande révérence.
Prêt à vous obéir, monsieur.
De quoi monsieur a-t-il besoin ?
Eh ben, j'ai besoin de rien !
C'est impossible, monsieur.
Vous nous payez pour nous donner des ordres, monsieur.
C'est vrai. Rendons au maître ce qui est au maître et à la racaille ce qui est à la racaille. Je vous ordonne de me dire tout ce que je dois vous ordonner.
Ordonnez-nous de vous apporter à manger.
J'ai pas faim. Les coups de pied ont détruit l'estomac.
Aucune importance, monsieur. Vous pouvez ne pas manger ce que nous vous apporterons.
Il ne s'agit pas de vous alimenter, mais de nous donner des ordres. Hein.
Ah, vous avez raison. La clé infecte. Apportez-moi à manger.
Les serviteurs sortent en courant.
Les serviteurs entrent en portant des assiettes remplies d'aliments de toutes sortes, grouillant de verre.
Monsieur est servi.
À vos ordres, monsieur.
Ah, quelle horreur ! C'est à vomir ! Tout est pourri !
C'est normal, monsieur. Ce sont des offrandes que nous avons ramassées sur les tombes de votre cimetière.
Bête sacrilège ! Ramenez immédiatement leur nourriture aux morts. Et voilà, j'ai oublié les trois coups pour démarrer. On la refait ? On refait ? Putain. Non, bah tant pis. Et maintenant, bah du coup, on part du côté jardin avec Jean-Michel.
Salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi ?
Ouais,
j'ai rien entendu !
Ouais,
les trois coups ! Eh ben, on a oublié tout à l'heure. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous parler d'Iggy Pop et puis plus tard dans l'émission de Trainspotting. Alors, Iggy Pop, James Newell Osterberg Jr., dit Iggy Pop, chanteur, compositeur, acteur américain, né le 21 avril 1947 à Muskegon, dans le Michigan. Son groupe The Stooges, actif de 1967 à 1974, puis de 2003 à 2013, est précurseur du mouvement punk, le proto-punk, avec trois albums majeurs, The Stooges, Funhouse et Raw Power. Alors, Iggy Pop a un jeu de scène sauvage, impressionnant. Il combine acrobatie, nudité, jurons et parfois un peu d'automutilation, histoire de... Surnommé Liguan ou The Godfather of Punk, le parrain du punk, il est l'un des rares artistes à avoir été épargné par la vague punk de la fin des années 70. Dans les années 90, le grunge revendique son influence. Parmi ses morceaux les plus connus avec les Stooges, on peut citer I Wanna Be Your Dog, Search and Destroy et ses deux premiers albums en solo, The Idiot et Lust for Life, sorti en 1977 et produit par David Bowie, alors rentre dans le top des classiques punk rock destroy. La suite de sa carrière discographique, en dépit d'un accueil critique plus inégal, a été marquée par des tubes occasionnels parmi lesquels I'm Bored, Railroad Child, Candy, en duo avec Kate Pearson, ou encore In the Dead Car, sur une musique de Goran Bregovic.
Il a également fait des apparitions au cinéma, notamment dans Dead Man, Coffee and Cigarette, The Crow, La Cité des Anges et plus récemment The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Alors c'était Night Clubbing de Diggy Pop et maintenant on passe côté cours pour une petite histoire avec Jean-Pierre.
Merci mon petit Jean-Michel. Durant le Moyen-Âge, la société de l'époque se radicalise, notamment lors de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est une période de folie collective et de répression de ceux qui sont jugés comme des hérétiques, tout cela avec la bénédiction de l'Église. Et on va s'en prendre, entre autres, à ceux qui sont soupçonnés d'être des sorciers. En 1270, un premier ouvrage, le traité de l'office de l'Inquisition, est édité et il donne les peines qui sont à infliger aux serviteurs du démon. Dans la ville de Toulouse, en 1435, un procès est organisé et il va juger une soixantaine d'hommes et de femmes accusés d'hérésie, qui avouent gentiment adorer le démon et participer à des cérémonies diaboliques. Alors quand je dis gentiment, c'est plutôt sous la torture qu'on leur extorque des aveux. À partir de ce procès, être accusé de sorcellerie devient encore plus facile. Il suffit juste d'être considéré comme étant hérétique, c'est-à-dire mettre un peu en doute les discours et les croyances officielles. Mais c'est surtout à partir de 1484 que la répression va devenir terrible et que le pape Innocent VIII va donner carte blanche aux inquisiteurs pour chasser et punir tous ceux qui leur déplaisent. Les chrétiens, qui ont été massacrés pour chasser dans des temps plus anciens, verront se dresser à leur tour leurs représentants comme des bourreaux pendant l'Inquisition. En 1486, un autre ouvrage, « Le marteau des sorcières », est publié. Et dans ce livre, entre autres, une certaine partie de la population est visée, les femmes. Et oui, parce que, mesdames, vous n'avez pas les ressources ni mentales ni physiques pour résister aux démons, petits êtres fragiles que vous êtes. Et puis aussi parce que sur 5 condamnés, 3 ou 4 sont des femmes. Plus généralement, les femmes sont vues par l'Église comme des tentatrices éternelles, des êtres fragiles et pervers qui vont pactiser avec le diable et qui vont détourner les hommes du droit chemin. Ces êtres faibles, peu fiables et qui ont un penchant pour la luxure.
Salope, succube.
Cèdent facilement aux démons et ce dernier en profite pour les séduire et avoir une relation avec elles. Et à ce moment-là, elles se transforment en sorcières. Et évidemment, que fait une sorcière ? Eh bien, sa passion, c'est de semer la terreur et la désolation partout où elle passe. Des maladies, un enfant handicapé, une femme stérile, un homme impuissant, une tempête de grêle, le bétail qui meurt, ce sont les sorcières qui en sont à l'origine. Les auteurs du marteau des sorcières donnent l'exemple. Ils vont aller au contact des paysans. Pour ces derniers, la guérisseuse est le dernier espoir quand un des leurs est gravement malade. Elle est respectée pour son savoir-faire. Mais elle est aussi très redoutée parce qu'évidemment, ce qu'elle fait reste un mystère. Alors les paysans sont appelés à les dénoncer. Votre femme est malade, votre cheval est mort, c'est la guérisseuse, c'est une sorcière. La rumeur enfle et les accusations se multiplient. En réalité, ces femmes que l'on accuse de sorcellerie sont pour la plupart âgées et seules. Elles n'ont plus de mari, de parents et pas ou plus d'enfants. Elles vivent dans un état de pauvreté extrême.
Abrégeons leur souffrance.
Elles sont bien plus pauvres que les villageois, et ces derniers, qui ne sont pas spécialement obsédés par le diable, redoutent surtout que les sorcières volent leurs possessions. De cette crainte et de la délation facilitée par les inquisiteurs, naissent des centaines de procès civils à travers tout le pays, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Le fameux livre « Le marteau des sorcières » donne la ligne de conduite pour un jugement efficace dans lequel la dénonciation est un élément primordial. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a aucun défenseur de la prévenue. Le juge ne communique aucun élément du dossier à l'accusé, ce qui rend beaucoup plus compliqué sa défense. Si les témoignages récoltés sont jugés concluants, la présumée sorcière est arrêtée et interrogée, mais si elle nie les faits, elle est torturée. D'ailleurs, monsieur le bourreau, comment torturez-vous les sorcières ?
Ma méthode préférée, c'est l'estrapade. On hisse haut la sorcière et on lui attache le bras dans le dos. Puis, on la fait retomber, mais sans lui faire toucher le sol. Retenue par la corde qu'elle a dans le dos, ses épaules vont se disloquer et engendrer une douleur très violente. Parfois, on leur attache aux pieds des poids de 25, 50 ou 75 kilos, ce qui provoque l'arrachement des membres.
Évidemment, sous la torture, les juges obtiennent tous les aveux qu'ils désirent. Que la sorcière a noué un pacte avec le diable, qu'elle a eu un rapport avec lui, qu'elle a renoncé à sa foi chrétienne et qu'elle est devenue sorcière, mais aussi qu'elle possède une poudre diabolique nécessaire à l'exécution de ses méfaits. Les juges cherchent les complices des sorcières. La torture est efficace pour leur faire dénoncer n'importe qui, des proches, des amis, des voisins. Et tous ces gens-là seront à leur tour suppliciés et dénonceront aussi des proches qui seront accusés de sorcellerie et torturés. Et de fil en aiguille, des milliers de personnes seront jugées et condamnées. Le marteau des sorcières est réédité en plusieurs langues et plusieurs fois. Ainsi, la chasse aux sorcières se répand partout en Europe. Cependant, c'est en Allemagne et en Espagne que la répression des juges est la plus forte, entraînant des révoltes outre-Rhin et l'assassinat d'un inquisiteur. En Espagne, la violence d'un inquisiteur est tellement féroce que même le pape de l'époque la désapprouvera. Vers la fin du XVIIe siècle, cette répression commencera à disparaître. Mais le bilan est lourd. Elle aura vu des milliers de personnes innocentes enfermées à vie, privées de leurs biens et pour la plupart brûlées vives.
C'est à moi. On est sur, vous êtes toujours sur Radio Estrapade, Escapade, pardon.
Ah oui, oh là là.
Un petit truc rigolo, c'est l'heure du truc rigolo, c'est parti.
C'est l'heure de l'histoire rigolote. Allez, on se poêle.
Allez, je m'y mets. Je fais l'inquisiteur. Sorcellerie, diablerie, magie noire, magie blanche, illusion, croyance, magie magique, incantation.
Hé, hey, Stanislas, aujourd'hui c'est la fête chez l'apprenti sorcier.
Ah bon ? C'était pas la semaine dernière ?
Non, 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 c'est aujourd'hui, maintenant, allons-y.
Ah ben, ouais ! Allez, on passe chez moi vite fait, je prends mon nouveau droïde et on y va.
Ton nouveau druide, tu veux dire ?
Ouais, c'est ça.
Bienvenue chez Stanislas. Je suis le nouveau droïde ménager et sorcier Gaza.
Ah, ouais, ok, tais-toi Gaza, là. Il fait tout, ce nouveau droïde. Il essore, il jette des sorts, il est un peu lent, un peu limité. L'autre jour, il a changé la cafetière en citrouille et a essoré la sauge divinatoire. Bon, le bougre. Mais il en apprend tous les jours. Hocus pocus et tout ça!
Désirez-vous un café?
Non! Oh,
limité, je te dis. Bon, let's go to the Appointed Sorcerer Party!
Yes, yes! Allons faire la fête chez l'apprenti sorcier.
Désiré.
Non,
rien du tout.
Tout t'as dit.
We'll be right back.
C'était la salsa du démo. Alors, est-ce que c'est le grand orchestre du Splendide ou pas? On n'en sait rien, mais en attendant, on va lancer Lana avec les fréquences.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan et sur Internet dans tout le monde entier et tout l'univers connu www.radioescapade.org. Et maintenant, nous retrouvons Jean-Michel.
Trainspotting ou Ferrovipates au Québec. Voilà, c'est le nom du film. Ferrovipates au Québec. Trainspotting dans tout le reste du monde. C'est un film britannique réalisé par Danny Boyle, sorti en 1996, écrit par John Ould, un film adapté du roman du même nom, publié en 1993 par l'écrivain écossais Irvine Welsh. Le film raconte les aventures de Mark Renton, dit Rent Boy, interprété par Edward McGregor, un jeune toxico d'Édimbourg qui tente de se sevrer de l'héroïne et de se séparer de sa bande d'amis qu'il considère comme néfaste. Au-delà de l'addiction à la drogue, le film explore des conditions de vie déplorables de la jeunesse dans une Écosse en pleine dépression économique dans les années 1990. Trainspotting connaît un large succès au Royaume-Uni. Il a été présenté hors compétition à la 49e édition du Festival de Cannes, où il fait scandale. Qualifié de symbole d'une génération, Trainspotting est devenu, au fil des ans, un film culte révélant Evan McGregor et Danny Boyle au grand public. On entend des répliques comme...
Pas besoin de baiser quant à l'héroïne.
Ou encore...
Il n'y a pas une queue qui rivalise avec l'héroïne.
Je rappelle que l'abus de drogue est dangereux pour la santé.
Alors que les queues, pas du tout.
En fait, Mark Renton veut retrouver une vie normale avec voiture, famille, travail, crédit, etc. Quoi. Tout ce qui fait de nous des consommateurs normaux, mais des consommateurs quand même. Une suite T2, Trainspotting, sort en 2017. Elle n'est pas tirée du roman porno, suite de l'œuvre originale publiée en 2002. Comme son prédécesseur, le film obtient des critiques généralement positives, mais avec un succès commercial moindre.
No fun.
Alors ouais, évidemment, c'est pas Edward McGregor, mais c'est Evan McGregor. Là, on vient d'écouter. Évidemment, ben oui, vous l'aurez, comment dire, rectifié par vous-même, hein, bien sûr. Un grand cynophile que vous êtes. Alors, c'était les No Fun des Stooges, voilà. Et maintenant, sur la grande scène, c'est à Lydia.
Bonjour, bonjour. Alors, c'est la guerre économique, la bourse panique. L'inflation va tous nous détruire. Mais pourquoi tout le monde s'étonne des droits de douane de Trump? Il a vendu les droits de douane en anglais tariff.
Le plus beau dictionnaire, le plus beau mot du dictionnaire.
Comme la parfaite solution pour
réindustrialiser l'Amérique, rééquilibrer la balance commerciale et éponger le déficit budgétaire.
La dette américaine s'élève à 35 000 milliards de dollars, 10 fois plus que la France, ce qui en fait le pays le plus endetté du monde. Voilà, pour simplifier, comment ils raisonnent. On va taxer les produits étrangers.
On sera obligé de les fabriquer chez nous.
Les entreprises étrangères viendront se localiser aux États-Unis.
Ils veulent nous vendre leurs produits, nous, on aura le plein emploi.
Ce qui est déjà à peu près le cas aux États-Unis.
Les produits seront moins chers pour les Américains. Tout le monde sera happy content.
Parce que c'est bien connu, rien n'existe en dehors des États-Unis. Cela s'appelle le protectionnisme et ça a fonctionné pour les États-Unis fin 19e et au début du 20e. Et je le répète, c'était son programme électoral. Rien n'aurait dû surprendre ou faire paniquer les marchés. Ou alors, c'est que plus personne n'écoute les programmes des futurs présidents. On vote à la tête du client, j'imagine. Il n'a pas arrêté de le dire qu'il allait faire baisser le coût de la vie en augmentant les tarifs douaniers, tout en balayant les risques d'inflation et de déroute boursière pointés du doigt par des économistes. Alors là, qu'il est au pouvoir, bah il fait ce qu'il a promis. Bon, il a commencé par augmenter les droits de douane sur les produits venant de Chine, sur une partie des marchandises en provenance des voisins mexicains et canadiens, de même que sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis. Sans oublier 25% en plus sur les voitures et les pièces détachées des dites voitures. Bah oui, Trump, il est pas content.
L'Europe et l'Asie vendent les voitures aux États-Unis, mais n'achètent pas de voitures américaines.
Peut-être parce que de gros SUV dans les rues étroites de nos villes, c'est pas trop le truc, sans compter que l'essence, ça coûte un bras, alors les grosses cylindrées, c'est pas pour nous. Il nous a ensuite présenté son Liberation Day, et là, c'est tout le monde qui est taxé, et les bourses plongent. D'ailleurs, Elon Musk a perdu 8 milliards en une journée.
Une paille, j'ai plus de 363 milliards de dollars.
Et puis, comme Trump est taquin, finalement, il a décidé de suspendre les tarifs de douane pendant 90 jours. Du coup, son pote Elon a gagné
36 milliards de dollars, yeah!
En une journée, donc c'est la fête! Les riches s'enrichissent, tandis que le reste du monde se demande ce qui va arriver à son pouvoir d'achat. Et voilà nos gouvernements qui nous expliquent que non, mais en fait, faut pas s'inquiéter, Donald, il fait juste ça pour qu'on vienne à la table des négociations. Ça ne va pas rester en l'état, ce à quoi Trump répond.
Je ne sais plus. Non, c'est pas pour négocier, c'est pour de vrai.
Et moi, je le crois, Trump. Même quand il perd, quand il ne sait plus quoi dire. C'est pas vraiment.
I don't know.
C'est pas vraiment une négociation quand tu as une arme pointée sur toi. Hein. Non, mais genre, vous imaginez un braqueur à son procès. J'ai pas menacé de mon arme la caissière de la banque pour la braquer, mais pour négocier. La question que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas anticipé ça. Non, mais le monde entier a l'air de tomber des nues. C'est Trump, quoi. Vous avez vu ses conseillers? Déjà, son conseiller au commerce, Navarro, déteste la Chine, mais Trump le qualifie de...
visionnaire de génie.
Et Musk le qualifie de...
crétin. Il est bête comme ses pieds.
Sympa l'ambiance dans le bureau ovale. En parlant de Chine, eux, les tarifs noyés, douaniers, c'est hardcore, 145%.
La Chine, c'est le plus grand truand de l'histoire.
Et eux, ce n'est pas suspendu. Du coup, la Chine augmente aussi ses droits de douane et se retrouve isolée. Avant la suspension des droits de douane, on pouvait envisager un rapprochement Chine-Union européenne pour faire face. Mais là, l'Union européenne se dit « bon, finalement, on a le temps de voir venir, hein, on va négocier, lol ». la taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium était déjà là durant le premier mandat de Trump. Bon, il a perdu l'élection et Biden a dit « bah non, en fait, on va pas appliquer ça ». Et l'Europe, pendant ce temps, elle a fait quoi ? Pour au cas où le gars de la télé-réalité revienne au pouvoir, bah que dalle en fait. Alors du coup, comme il y a un embargo sur les produits chinois aux États-Unis, l'Europe va se retrouver envahie de produits chinois. Faut bien qu'ils écoulent leurs produits quelque part, déjà qu'un colis sur cinq de la poste vient de Chine. Mais qui de la Chine ou des États-Unis a le plus à perdre dans ce bras de fer ? Certes, les États-Unis ont décidé d'appliquer en plus des frais de douane, des frais sur les bateaux en provenance de Chine. La Chine réplique en refusant de recevoir les avions fabriqués par Boeing et bloque les exportations de minéraux provenant des terres rares. Et là, on se dit, bah, en fait, la Chine est moins dépendante des États-Unis que l'inverse. Par exemple, Trump veut réindustrialiser l'Amérique, mais il a l'air de penser que ça va se faire en deux temps, trois mouvements, alors qu'il faut des décennies pour réindustrialiser un pays. La Chine, elle, elle a déjà les usines. Et Trump commence à s'en rendre compte, vu qu'il vient d'exempter des frais de douane à 145% tout ce qui est ordinateur et téléphonie. Bah oui, quoi, le consommateur américain, il veut pas payer son iPhone 2 300 $. Et la France devrait peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu avec les Chinois. Parce que ce sont 97% des Chinois, 1 milliard de Chinois quoi, qui déclarent avoir déjà consommé des produits « made in France » contre seulement 65% des Américains, 76% des Allemands et 85% des Italiens. Et surtout, surtout plus d'un Chinois sur trois, c'est-à-dire 38%, l'ont fait de très nombreuses fois, contrairement aux autres. Faut qu'on reste pote avec les Chinois. Du coup, Trump, ça commence à lui prendre la tête, ces histoires de douane. Il commence à s'occuper de choses hautement plus importantes, comme l'immigration. La sécurité sociale américaine a coupé ses prestations à plus de 6000 immigrés latino-américains en les déclarant officiellement décédés.
Pour les forcer à quitter le pays.
L'idée viendrait de la Commission pour l'efficacité gouvernementale, DOGE, pilotée par le multimilliardaire Elon Musk.
Après, je les enverrai sur Mars.
Cette mesure brutale va donc les priver de leur droit à toute prestation sociale. Aux États-Unis, ce numéro à 7 chiffres, obtenu de manière légale, leur permettait de recevoir des aides sociales, mais aussi de travailler, de détenir un compte en banque ou de louer un logement. Mais ce n'est pas sa mesure la plus importante. Ce qui le préoccupe vraiment, ce sont ses cheveux.
Mes cheveux ? Je ne sais pas pour vous, mais ils doivent être parfaits, parfaits. Absolute parfaite. Je prends une douche, je veux que ma belle chevelure soit parfaitement shampoonée. Je prends le meilleur produit, je m'en mets une bonne dose, j'ouvre le robinet et ça tombe goutte à goutte. Impossible de se rincer, c'est horrible.
Du coup, Trump a signé un décret levant les restrictions de débit des pommeaux de douche qui avaient été imposées pour limiter la consommation d'eau pour...
Make America's shower great again.
Les États-Unis ressemblent de plus en plus au Titanic, trop grand pour tourner, trop lent à réagir. Dans le déni du naufrage, il n'y a pas assez de bateaux de sauvetage pour tous les passagers, sauf les 1% d'ultra-riches. Et le grand orchestre mondialisé continue de jouer comme si rien ne se passait.
Money!
C'était Pink Floyd, Money. Et maintenant, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur le théâtre tout à l'heure. Et la question, c'est pourquoi dit-on côté cour et côté jardin ?
C'est une devinette.
Oui.
Je suis trop fort.
T'es trop fort.
J'ai deviné quelque chose quand même. Ouais, bon. Je sais pas, c'est un rapport avec l'aristocratie. Non, évidemment.
Alors, avant,
savais,
on disait
hein,
côté.
Oh, quelle honte.
Côté reine. Ouais, c'est ça. Côté roi. Mais évidemment, après la Révolution, non. Et. Moi, voilà, côté reine ou côté roi, parce que dans l'horloge, ils se faisaient face, en fait.
Ouais, voilà, ça, ok.
Mais ça, c'est pas côté cour et côté jardin. C'est venu après, en fait, côté cour et côté jardin.
Je me rappelle pas.
Alors, côté cour, je sais pas, mais côté jardin, j'ai peut-être une idée.
Ouais.
Moi, je pense que pendant les pauses au théâtre, il doit y avoir un jardin pas loin du théâtre, avec des tomates, tout ça. Et donc, ça permet aux comédiens d'aller chercher des tomates, des poivrons, faire une petite cuisine, comme ça, une petite salade avec de l'huile d'olive. Et se faire un petit...
Une ratatouille.
un petit snack, comme ça, pendant la pause.
Ah oui, je crois qu'il parle des tomates pour les jeter.
Non, mais tu prends l'apéro dans la cour, et dans le jardin, et tu fais chercher les tomates cerises.
Ah ben c'est ça, côté cour, alors.
Alors non. C'est qu'à l'époque, en 1770, la comédie française, alors elle était... dans la salle, alors elle était installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries, qui donnait d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre côté
sur le jardin des Tuileries.
Et voilà, tout simplement. Donc on a dit côté cour, côté jardin. Et alors, comment se souvenir ? Et par exemple pour les acteurs.
Ah bah,
si c'est à droite ou à gauche.
Ça dépend de quel côté tu te places, c'est impossible. C'est
voilà. Vraiment, et ben en fait si, c'est tout. Tout à fait possible, parce que c'est toujours du point de vue du public. Toujours du point de vue du public.
D'accord. Oui.
Donc, quand
Antoine,
tu prends
Antoine
JC...
Antoine nous fait le signe, il est juste sur public. La croix. Il est
jardin à gauche.
Il est HS.
Voilà. JC. Bon.
Jardin des Tuileries, il n'y avait pas de tomates.
Dans le dos, dans le dos c'est quoi dans le dos?
Donc voilà, c'est pour se souvenir, je disais Jésus-Christ, et pour les plus laïcs d'entre nous, Jules César, et toujours du point de vue du public. Et en anglais, ils font plus simple, hein, c'est stage left, stage right.
Donc, voilà. Du point de vue du...
C'est toujours du point D'accord. de vue du public. En
Angleterre.
En fait, ils avaient le souffleur aussi, qui était d'un certain côté.
Oui,
parce
ils ont tendance
que,
à
fait,
faire à l'inverse de nous. Enfin, la conduite, les...
Oui, voilà. Et donc voilà, ils choisissent... Il y a aussi un autre truc, ils peuvent dire PS ou prompt side, parce que c'était le côté où il y avait le souffleur, en fait. Et prompt, c'est prompteur...
Celui qui climatise
et l'opposite, et l'autre c'était OP, opposite prompt side OP. Donc c'est plus simple quelque part. Ouais, voilà.
Vachement plus simple.
Voilà ouais. Pour la petite histoire
de théâtre.
Du truc. Merci. Alors j'ai aussi une vraie petite news d'après Tinder, TikTok, Facebook, tous les trucs sociaux de l'enfer qui nous détraquent la tête. Chuck Norris a déjà fait pleurer la vache qui rit.
Voilà. Ben, bis à Manu, à Redouane, à Tutti la famille. C'était Faites valser les idées, faites valser vos idées avec Max. Merci à Max, merci à Lydia, merci à Jean-Pierre et à moi-même. La réalisation. Et c'est Antoine. À bientôt. Bisous.
Sur Radio Estrapade.
Merci, bisous.
Merci.
Ciao.